Chapitre 20. C'était un point capital d'avoir préparé ainsi l'opinion publique, puisqu'en somme, le verdict du jury n'est que l'expression de cette opinion. Mais ce n'était pas tout, il fallait maintenant trouver un défenseur qui, par le talent, l'autorité, le prestige, fût à la hauteur de la tâche qu'il voulait lui confier. Quel serait ce défenseur entre les mains de qui il allait remettre la vie et l'honneur de la femme qu'il aimait ? Dans son embarras et sa perplexité, tremblante à la pensée de la responsabilité qu'entraînait ce choix, il avait voulu consulter son professeur de droit, mais au premier mot, celui-ci l'avait arrêté. « Sale affaire, dont vous ferez bien de ne pas vous mêler. »« La connaissez-vous, cette affaire ?»« Je la sens, et vous pouvez m'en croire quand je vous dis qu'elle ne sent pas bon. »« Et moi, vous pouvez m'en croire quand je vous affirme l'innocence de Madame la Vaupalière. » Il avait plaidé cette innocence avec tant de feu, tant de passion, qu'il était évident qu'on n'ébranlerait pas sa foi et que, par conséquent, mieux valait encore le diriger que le laisser livrer à lui-même. « J'aurais voulu ne pas voir votre jeunesse se compromettre dans cette aventure, mais puisque rien de ce que je vous dis ne vous touche, je ne peux pas ne pas répondre à votre demande. Si j'en crois les bruits du palais, c'est Saint-Hélier qui défendra la Vaupalière. » Ils ont été liés autrefois et Saint-Hélier ne pourra pas le refuser. Ce que sera cette défense, on peut le prévoir d'après le caractère de Saint-Hélier. Honnête, droite, consciencieuse, cela, mais rien que cela. Une défense de province pour des jurés de la province. Ce n'est pas ce qu'il faut pour la femme qui, d'après ce que je connais de l'affaire, me semble devoir être défendue brillamment par un avocat panache et sympathique pour qui tous les moyens seront bons. Des avocats parisiens, c'est Dresch qui me paraît le mieux remplir ces conditions. Du talent, il en a à revendre. En ces dernières années, il a par deux ou trois succès conquis l'autorité. Et il n'est pas homme à s'embarrasser de scrupules qui pourraient gêner un autre. Mais ce qu'il est surtout, c'est persona grata, comme on dit dans le langage de la diplomatie. Il ne s'impose pas au jury, il le séduit aussi bien par sa figure agréable que par ses manières caressantes, sans bassesse, sa voix qui sait exprimer toutes les notes de la tendresse et de l'émotion, enfin par son regard charmeur. Ce n'est pas lui qui indisposera un juré par le mauvais œil qui a tant nui à la chaux. Voilà l'avocat que je donnerai à Madame la Vaupalière. Maintenant, un dernier conseil, puisque je ne peux pas vous empêcher de vous mêler de cette affaire, n'y jouez pas un rôle ouvertement, et au lieu d'aller vous-même trouver Droche, envoyez-y un parent de Madame la Vaupalière. Elle doit bien en avoir, qu'ils ne refuseront pas de s'occuper d'elle. » Bien que Médéric jugea cette précaution inutile, il accepta cependant, et dès le lendemain, il alla au Thuy demander à l'oncle Gibourdel de se rendre à Paris pour confier la défense de sa nièce à Droche. Mais au premier mot, Benoît Gibourdel, qu'il trouva à table en train de déjeuner avec sa femme, se récria. « Si la personne dont vous parlez a fait ce qu'on dit, s'écria-t-il, ce n'est plus ma nièce, je la renie. » « Et si elle ne l'a pas fait, ne doit-elle pas être défendue ?» répliqua Médéric indigné. « Si elle l'a fait, elle doit avoir le cou coupé !» dit la femme d'un ton qui indiquait que cette perspective n'était pas pour lui déplaire. Médéric dut parlementer, plaider pendant plus d'une heure, en répondant au mari qui faiblissait et à la femme qui s'exaspérait. À la fin, il obtint que le lendemain, l'oncle Benoît l'accompagnerait à Paris, et rendez-vous fut pris à Oissel pour partir ensemble. Naturellement, ce fut Médéric qui arriva le premier à la gare, et quand il vit paraître Benoît Gibourdel, il alla au-devant de lui pour lui remettre son billet. « C'est que faut que vous sachiez, » dit Benoît Gibourdel en regardant son billet, « je ne vais qu'en troisième. Moi, je ne vais qu'en première. Pour lors, si c'est comme ça... » Et il mit le billet dans sa poche sans en demander davantage. Puisque c'était ce jeune homme qui payait, il n'allait pas marchander, ni insister pour monter en troisième. Cela ne serait pas civil, et Dieu merci, il connaissait la civilité. À Paris, quand, après deux heures d'attente, ils furent introduits dans le cabinet de Droche, ce fut Médéric qui prit la parole. « Voici M. Benoît Gibourdel qui vient vous demander de vous charger de la défense de sa nièce, Madame la Vaupalière. »« Je n'ai donc qu'un paysan, » dit Gibourdel, qui, pour ne pas se trouver engagée, jugea à propos de se faire tout petit. « Mais ma nièce a de quoi ? Ne craignez rien, monsieur l'avocat, elle vous paiera bien. » Médéric lui coupa la parole et exposa l'affaire comme il désirait que Droche la vît. Puis, quand l'avocat eut accepté cette défense, il posa sur le bureau une liasse de billets de banque que Giboudel regarda avec des yeux stupéfaits. « C'est une provision, » dit-il. Dès qu'ils furent sortis, Giboudel crut devoir lui adresser des observations. « Comme ça, sans marchander, » dit-il, « sans tirer un reçu. » Il avait envie de la faire, on aurait pu haricoter, il aurait peut-être payé pour la voir. Il ne se calma que lorsque Médéric l'invita à dîner. « C'est pas de refus, faut se soutenir. » Et il se soutint si bien qu'il fit l'étonnement de ceux qui dînaient près d'eux. « Faut être juste, » répétait-il de temps en temps. « Pour la maquerie, il n'y a que Paris, si seulement ils avaient du cidre. » En revenant, Benoît Giboudel voulut descendre à Oissel, mais Médéric, qui avait son plan, le décida à venir à Rouen. Malgré ses sollicitations, il était sans nouvelles d'Hortense, comme elle était elle-même sans nouvelles de ce qu'il tentait pour sa défense, et il comptait sur l'oncle Benoît pour essayer d'arriver jusqu'à elle. Ne put-il la voir que quelques minutes, elle saurait qu'elle n'était pas abandonnée. Cependant, si bien stylé qu'il eût été, l'oncle Benoît ne put rien obtenir. Lorsque les circonstances le permettraient, le permis de communiquer serait aussitôt accordé s'il avait lieu. En attendant, Madame la Vaupalière ne pouvait voir personne, ni écrire, ni recevoir de lettres. L'instruction a ses exigences, dont les magistrats sont seuls juges. Cette sévérité dans l'emprisonnement devint la douleur la plus vive de Médéric. De partout le repousserait-on, soit en ne voulant pas l'écouter, soit en lui adressant des remontrances. Ses oncles ne voulaient plus le voir. Sa mère, du matin au soir, se désespérait. Ses amis se moquaient de lui. Et dans tout Rouen, il faisait scandale. Vous savez que le fils Artaud, le neveu des messieurs Boutevillain, est amoureux fou de l'empoisonneuse d'Oissel. Il assassine tout le monde de démarches qui le déshonorent. Elle est donc bien séduisante. Dites qu'il est bien niais. Ou bien corrompu. Et l'on ne se gênait pas pour lui témoigner l'étonnement et aussi la pitié, quelquefois même le mépris qu'il provoquait. Ce qui d'ailleurs le laissait indifférent. Était-ce de lui qu'il pouvait s'occuper, à lui qu'il pouvait penser? Les choses allaient ainsi lorsqu'un jour il reçut une lettre d'une écriture barbare qui lui disait que, s'il était décidé à payer ce qu'elle valait, certaines nouvelles d'une personne à laquelle il s'intéressait, il n'avait qu'à se trouver le lendemain à 9h du soir, place du Clos Saint-Marc au café Éloi. On les lui donnerait contre argent remis de la main à la main. Un peu avant l'heure fixée, il entrait dans le café Éloi, qui est une sorte d'assommoir à l'usage des misérables du quartier Martinville, et à une table, il apercevait une vieille femme au visage pâle, assise en compagnie de deux hommes plus jeunes qu'elle, qui avaient tout l'air de deux gredins. L'un d'eux, en le voyant entrer, vint au-devant de lui. « Monsieur Artaud, je pense ?»« Oui. Si vous voulez vous asseoir ?» Il ne rechigna pas et prit place sur un tabouret en face de la vieille femme. « V'là mon épouse, » dit celui qui l'avait abordé, « qui sort de bonnes nouvelles, où ce qu'elle s'est trouvée avec une amie à vous, qui a eu aussi des malheurs, aussi, et qui lui a remis des papiers en lui promettant que vous la récompenseriez. « Les voilà !» dit l'épouse en mettant une enveloppe sans adresse sur la table. « Qu'est-ce que vous me donnez ?» continua l'homme. « Qui me dit que ces papiers ont de l'intérêt pour moi ?» répondit Médéric en cherchant à se tenir sur la réserve. « Puisque c'est Madame la Vaupalière qui m'a chargé de vous les remettre !» répliqua la femme. Ce nom si cher décida Médéric. Il prit un billet de 100 francs dans sa poche et l'ouvrit sans le lâcher, mais le trio partit d'un même éclat de rire. « 100 francs ? Oh là là, malheur ! Pourquoi pas 15 centimes ?» Puis, brusquement, le mari de la libérée prit l'enveloppe, avec une allumette l'ouvrit et en tira 4 feuilles de papier. « Il y a 4 feuillets, dit-il, c'est 400 francs, pas un sou de moins. » « Vous voyez qu'il n'y a rien d'écrit sur ces feuillets ?» dit Médéric. « Farceur, vous saurez bien les rendre lisibles. Pour vous prouver que nous ne voulons pas vous vendre du papier blanc, faisons une affaire. Contre votre billet, je vous remets un feuillet, vous le lirez, et demain, ici, à 10 heures du matin, je vous remettrai les 3 autres contre 3 autres billets. Nous sommes d'honnêtes gens, vous savez. » « Et la preuve, continua la femme, c'est que je veux, en attendant, vous donner des nouvelles de votre petite. Elle est en bonne santé, aussi bonne que si elle se promenait tous les jours dans son jardin. Elle a si bien retourné les seins qu'elle fait d'elle ce qu'elle veut. Elle pourrait ne pas travailler et elle a pourtant voulu ourler des sacs. Elle pourrait faire venir ses repas du dehors, elle mange la soupe et le ratat comme les autres. Aussi, tout le monde l'aime et l'estime. » Une femme qui a empoisonné son mari, chouette! Avec ça, pas fière pour 2 sous. Cette façon de parler d'Hortense outrageait Médéric. Il se leva et sortit, pressé de chauffer ce papier pour lire ce qu'elle avait écrit dessus, avec du jus de citron vraisemblablement. Seul, tu peux me sauver, chère bien-aimée, et ma foi en ton amour est telle que je suis certaine que tu étais déjà mise à l'œuvre. Ton cœur, ton noble cœur qui connaît le mien, se refuse, n'est-ce pas, à admettre une seule de ces accusations. » Elle continuait ainsi jusqu'à ce que le papier s'interrompît. Quelle fierté, quelle gloire, que ce fut à lui qu'elle remit sa vie et son honneur, sans une seconde de doute ni d'hésitation. Le lendemain, à 10 heures du matin, il échangeait au café Éloi, contre 3 billets de 100 francs, les 3 feuillets qui restaient. Il n'était que la continuation du premier, un acte de foi et d'espérance en lui. À la fin du dernier seulement, elle précisait ce qu'elle espérait et attendait. C'était qu'il écrivît avec une solution de cobalt sur les marges de l'imitation de Jésus-Christ qu'il demanderait à Divine ce qu'il avait fait jusqu'à présent et ce qu'il comptait faire encore pour la défendre. Par l'entremise des sœurs et de l'aumônier, elle trouverait moyen d'obtenir qu'on lui remît ce volume et ainsi elle serait fixée. Assurément, elle n'avait aucune inquiétude. Pas une seconde, elle n'avait eu de l'hésitation. Mais quel apaisement quand elle serait fixée d'une manière précise! Quelle joie quand elle pourrait s'endormir en berçant son cœur martyrisé par la pensée de ce qu'il faisait pour elle et en répétant son nom: « Médéric, Médéric !»